Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. On vous présente un épisode sur une station extérieure pour offrir de l'information et des services aux personnes en situation d'itinérance durant la pandémie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patricia Sévigny, agente professionnelle en loisirs à la Ville de Sherbrooke, de Charles Coulombe, organisateur communautaire au CIUS de l'Estrie-CHUS, et de Sébastien Laberge, directeur général du Partage Saint-François. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous me dire d'abord quelques mots sur qui vous êtes et comment vous vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
Qui je suis? C'est une question philosophique très large, là, mais en général, je suis quelqu'un qui travaille au centre-ville de Sherbrooke depuis maintenant 11 ou 12 ans. J'ai travaillé avec les jeunes et depuis 6 ans maintenant, je suis à la Direction générale du Partage Saint-François, qui est un organisme qui offre certains services là, à la population, des personnes en situation d'itinérance principalement, donc de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement de transition, de réinsertion et des plateaux de travail. Et voilà, principalement, je suis un psychoéducateur de formation et aussi un gestionnaire maintenant de services depuis quelques années.
Bien, moi, je suis une sociologue de formation. Je travaille ici en Estrie, ça fait maintenant plus de 15 ans. J'ai travaillé pour un CLD, la MRC de Coaticook, pour la Conférence régionale des élus de l'Estrie. Et depuis 5 ans, je suis à la Ville de Sherbrooke, au grand service des sports, de la culture et de la vie communautaire.
Moi, je suis géographe de formation. Je me suis retrouvé dans le domaine de l'itinérance il y a un peu plus de 20 ans, avant d'être organisateur communautaire au CIUS de l'Estrie-CHUS. Ce que je fais depuis 18 ans, j'ai été coordonnateur de la Chaudronnée de l'Estrie, le soupe populaire ici. J'ai participé à la mise en place du réseau Solidarité itinérance du Québec. Fait que depuis une vingtaine d'années, j'ai été associé beaucoup à plein de projets en matière de lutte contre l'itinérance à Sherbrooke. Puis c'est encore ce que je fais maintenant, donc voilà.
Aujourd'hui, on va parler d'une station extérieure aménagée dans la cour du Partage Saint-François pour offrir de l'information et des services aux personnes en situation d'itinérance durant la pandémie de COVID-19 à Sherbrooke. Comment vous est venue l'idée de ce projet?
Je pense que l'idéal serait de débuter avec un historique un peu de comment s'est déroulée la première vague de la pandémie, dans le fond, ou plutôt comment ça a été perçu et comment on a réussi à répondre du mieux qu'on pouvait, là, tu sais, selon la chronologie des événements. Dans le fond, au début de mars, là, la date exacte, je ne l'ai pas, mais c'était le 12 ou le 13, ouais, si je me souviens bien. Il y avait des mesures de santé publique qui étaient appliquées à la grandeur du Québec, donc on commençait le confinement généralisé, ce qui avait des impacts pour le commun des mortels, tu sais, pour l'ensemble de la population, et des impacts aussi pour une population qui est souvent marginalisée et cachée, qui est la population des personnes en situation d'itinérance. Donc, ces gens-là, bien qu'on ne les aperçoit pas, tu sais, il y en a... Donner un exemple au Partage Saint-François, même si les gens ne le savent peut-être pas, on héberge 500 personnes différentes dans une année. Donc, on parle d'un nombre d'individus qui est quand même important, même si des fois, les gens ont tendance à croire que c'est l'apanage des grandes métropoles. Là, l'itinérance, c'est une réalité qui existe. Et puis là, je ne parle même pas d'itinérance cachée, on parle vraiment juste d'itinérance visible. Donc, ces personnes-là qui sont habitués de vivre dans la rue, de survivre dans la rue, sont des personnes qui sont habituées d'avoir une trail qu'on appelle, ou tu sais, qui vont passer un peu de temps en bibliothèque, un peu de temps au Tim Hortons, qui ensuite vont aller au Carrefour, passer un peu de temps, qui vont rentrer au marché de la gare, qui ont des habitudes de vie pour se réchauffer, se substancer aussi, parce qu'il faut éventuellement boire, aller aux toilettes, toutes ces choses-là, tout fermé. Donc, face à cette réalité-là, puis même les services donnés à cette population-là aussi devaient fermer de par les mesures sanitaires qu'on nous demandait d'appliquer, ces gens-là se ramassaient face à un désert. Et puis, les quelques milieux qui étaient 24-7 ou les quelques... Tu sais, il y avait certains services du CLSC qui continuaient d'outreach, du CIUS plutôt. Il y avait le Partage Saint-François qui était ouvert 24-7. Il y avait les travailleurs de rue, mais tu sais, c'était très restreint, les gens qui travaillaient encore auprès de cette population-là. On a été assaillis par la demande. Parce que là où, normalement, les gens réussissaient à aller chercher un peu de services et de ce qu'ils ont besoin pour survivre, il y avait une absence totale. Donc, on est passé de quelques personnes qui se présentent à chaque jour. Exemple, en dépannage alimentaire au Partage Saint-François, on en fait 20-30 par jour, normalement. On avait plus de 100 demandes par jour du jour au lendemain. La chaudronnée, qui, normalement, a sa salle ouverte à tous les midis de la semaine, mais là, la chaudronnée était fermée, puis ça a pris quelques temps avant qu'on se mette à distribuer des boîtes à lunch à l'extérieur. Donc, il y a eu une exacerbation des problématiques vécues par ces personnes-là. Et donc là, ben, c'est à ce moment-là qu'au niveau de la concertation, deux semaines plus tard, là, c'est parce qu'il a fallu encaisser le coup, avec les partenaires, avec la Ville, avec le CIUS, avec les autres organismes au milieu de l'itinérance, on a fait un constat. Il y a un trou en ce moment de par ce confinement-là, puis on doit développer une solution de manière rapide pour réussir à offrir des services à ces gens-là.
Puis, ouais, puis moi, j'ajouterais toute cette pression-là grandissante envers le Partage Saint-François, là, qui est causée par tout ce que vient de nommer Sébastien. Il y avait une pression à l'interne que vivait le Partage Saint-François. C'était la difficulté de pouvoir agir puis intervenir de la même façon qu'il faisait habituellement. Parce que d'être capable de gérer un flot grandissant de demandes, c'est une chose. Mais si, en plus, t'as plus les leviers, t'as plus les moyens, puis il faut que tu appliques des mesures différentes, t'essaies de confiner, fait que c'est comme t'es pris dans une souricière un peu, tu sais, fait que... Puis, tu as un peu ce défi-là, puis, fait que, en tout cas, je pense que la force des constats, moi, je dirais, la force de ce constat-là, qui était partagé, puis qui, en même temps, au CIUS, tu avais toutes sortes de préoccupations, là, je veux dire, rapidement de pouvoir mettre en place des réponses qui vont freiner la dégradation, qui vont limiter la propagation du virus, etc. Moi, de mon côté, on me demandait de regarder un petit peu c'était quoi les besoins du milieu, de voir dans d'autres villes qu'est-ce qui se passe auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, on faisait des topos comme ça. Mais rapidement, ce qui était frappant, c'est que quand on est sur le terrain, comme quand on est des observateurs privilégiés comme l'était le Partage Saint-François, un moment donné, tu te dis « Hey, on met sur pied une station extérieure, tu sais, ça va répondre à tel besoin. »
Il y avait un effet qui était causé aussi par les demandes de la santé publique. On était ça paraît il y a 10 000 ans, mais c'est il y a quelques mois. On était face à une pandémie qu'on connaissait pas. On connaissait pas le virus, on connaissait pas, tu sais, les moyens de transmission même. Tu sais, il y avait des théories qui changeaient à tous les trois jours, même au niveau de la santé publique. Donc, les mesures qui nous étaient demandées, entre autres, de confiner des gens qui habituellement sont libres de leurs allées et venues, on nous demandait de limiter au maximum les contacts entre les groupes. On parlait pas de bulle à l'époque, mais c'était ça qu'on nous demandait un peu de créer. Donc, on devait mettre des barrières à l'entrée pour tous nos services et on pouvait plus accueillir les gens à la porte et du Partage et des autres organismes comme on le faisait avant, parce que chaque fois qu'on ouvrait la porte à quelqu'un, selon la santé publique, puis il n'était pas totalement dans le tort, c'est simplement qu'aujourd'hui, on s'est adapté différemment, ouais. Mais c'était un trop grand risque qu'on ne pouvait pas gérer.
Je comprends que c'est un projet qui a été mis sur pied en un temps record. Pourriez-vous me dire qu'est-ce qui a favorisé l'implantation rapide de la station?
Je pense que le premier élément qui a favorisé la rapidité, c'est le fait qu'on soit si bien réseauté, qu'on se connaisse très bien, que Charles, Sébastien, l'instance de l'ATIS qui était aussi là, qui a été interpellée pour répondre aux autres objectifs qui ont aussi été en fait ajoutés en cours de route, c'est-à-dire ben ces personnes-là devaient aussi avoir accès à des toilettes, à se laver les mains, en plus de l'information du café, de la chaleur humaine et la chaleur proprement parlée. Alors, dans le fond, cette convergence-là de besoins a pris la forme d'un chapiteau. Ça aurait pu prendre une autre forme. Mais c'est vrai que, comme Charles le disait tantôt, on est allé voir ce qui se faisait un petit peu ailleurs. Puis l'un des modèles là, qui avait été discuté, c'était un modèle montréalais où il y avait des petits chapiteaux, mais seulement que deux jours. Tandis que nous, ici, on est allé avec un chapiteau 24/7. Et la ville dispose de certains leviers, notamment via nos cols bleus, via certains équipements. Et je pense donc que la rapidité avec laquelle lequel on a monté ce chapiteau-là, c'était l'accès donc à un réseau de communication, à des expertises aussi connues et liées, ainsi que des leviers là, très, très concrets comme dont dispose la ville de Sherbrooke. Là.
J'étais impressionné de la rapidité à laquelle la ville a bougé. C'est presque digne de mention, ou non pas presque, c'est digne de mention. On était encore dans les dédales de comment on va gérer ce projet-là, ce qui normalement veut dire retarder de plusieurs semaines, ouais. Mois généralement un projet. Puis je me souviens, on en parlait en virtuellement, en réunion. Puis j'étais dans le stationnement en même temps, je parlais avec vous autres, puis il y avait des gens qui étaient déjà en train, avec le marteau-piqueur, d'installer des clous.
Ouais, exact.
Ils étaient en train d'installer la station, alors qu'on n'était même pas certain que ça a vraiment été proactif au niveau de la
ville. Moi, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que on est dans un contexte de crise, OK, où les choses doivent aller vite. Fait que c'est un défi de concilier qualité de processus et rapidité d'intervention. C'est une conciliation entre lenteur et rapidité. Du point de vue de Sébastien, peut-être, à partir du moment où il dit « Hey, moi, là, je suis prêt à installer une tente chez nous, là. » Entre ce moment-là, lui est prêt demain matin à ce que la tente soit là. Il bouge ses effectifs. Parfait, on s'organise. On a un contexte où il y a des services qui sont fermés. Moi, d'un autre côté, je mobilise un peu le monde pour voir si on constitue un horaire. Est-ce qu'il y a du monde qui peut contribuer, etc. Mais au CIUS, faut pour donner le go, pour dire « OK, c'est parfait, c'est une belle mesure, la santé publique appuie ça », ça prend quand même un petit quelques jours, là, parce qu'il s'en passe des choses, il y en a des urgences. Du côté de la ville, ils sont prêts à donner le go, mais il faut qu'on ait l'approbation de la santé publique aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur papier les idées. On a fait une analyse, on a dit à quel besoin ça va répondre. Fait que là, rapidement, on a fait ça, puis à un moment donné, le projet, il est pertinent, on va de l'avant. Mais pendant ce temps-là, moi, j'essaie de mobiliser le comité de coordination de la TIS, justement, parce que l'idée, même si l'idée vient du partage, est discutée avec la ville, avec moi, on veut quand même que ce soit un projet porté par la concertation en itinérance, qu'on fasse le constat que, dans les circonstances, c'est une réponse correcte ou non, tu sais. Mais moi, je pense que la disponibilité et la solidarité des organismes communautaires autour, ça a été une condition de réussite, parce que même si ça prend de l'énergie de faire ça, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres ressources que le partage Saint-François qui aurait pu driver ça, pardonnez-moi l'expression, puis le coordonner sur place. Mais en même temps, ça prenait du renfort, ça prenait des effectifs. Fait qu'il y a eu, des intervenants du CLSC qui étaient là. Je pense, tu sais, je ne veux pas l'oublier, mais tu sais, Iris, l'autre toi, il y avait de la disponibilité de la part d'autres ressources qui, temporairement, avaient soit suspendu leur service ou avaient réduit leur service, des bénévoles et tout ça.
On a même mobilisé des gens de nos milieux d'hébergement pour venir aider. T'sais, ça a été vraiment un travail collectif. Les services offerts ont été dispensés. Une fois que le projet a débuté, c'était plus le projet du partage Saint-François. On avait réussi à aller chercher cette concertation. Tu as nommé des partenaires. Il y avait autant le réseau. L'installation appartient à la ville. La gestion est faite par le partage. On a un backup d'intervention qui est chez nous. Une fois rendu là, le travail collectif était impressionnant.
Puis le gros défi, hein, je pense que Patricia aussi, on se parlait souvent, je parlais avec Sébastien, mais le gros défi dans le contexte de la pandémie, c'est on vit une situation hors norme qui nous oblige rapidement à se concerter, mais avec une possibilité beaucoup diminuée de le faire. On est juste au téléphone, en visio, tout le monde pressé, on se parle, on a 15 minutes. C'est très énergivore, puis ça augmente la difficulté. Fait que, tu sais, contrairement à ce que, tu sais, moi, je dis, c'est pas un projet de développement des communautés pur, là. Je pense qu'il y a des principes du développement des communautés, entre autres l'approche de la base, tu sais, de dire le milieu se mobilise, se concerte, puis on n'attend pas uniquement une directive d'en haut. Mais habituellement, dans des processus de développement, on a du temps. On réfléchit, on fait des analyses, c'est quoi le besoin, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, 10 ans, à quel besoin prioritaire on veut répondre. Là, c'est comme l'image que je prends, moi, c'est comme si on dévale une côte en bicycle, en vélo, puis là, pendant que les pédales tournent, il faut réussir à se mettre les pieds dans les cale-pieds. Là.
Au lieu d'un développement des communautés, on pourrait parler de réaction des communautés.
Oui, c'est
là, parce qu'on était, vraiment, comme tu dis, on n'avait pas le choix, ça bougeait. Il fallait là répondre, on n'avait plus le temps de s'asseoir puis de réfléchir. Là.
Puis c'est exactement dans ce contexte-là que la ville de Sherbrooke trouve son nid, en fait, a son approche, c'est qui est préconisée. Évidemment, la ville comme organisation, on a, nonobstant la crise, c'est des politiques, dont la politique de développement social et communautaire, dans laquelle on enchasse, en fait, nos objectifs, notre mission, comment on va intervenir dans les milieux, avec quelle clientèle, dans quel champ d'activité. Puis la ville, pourquoi on était là dès le début, du mieux qu'on pouvait avec les leviers dont on disposait. Évidemment, c'est pas parce qu'on a un mandat du gouvernement du Québec d'intervenir en itinérance, mais bien parce qu'on a des approches en développement des communautés et de partenariats qu'on souhaite évidemment nourrir, enrichir, actualiser. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que la ville est arrivée en soutien, parce qu'évidemment, on n'a pas le leadership ni de cette problématique-là, ni évidemment du projet. Mais c'est d'ailleurs pourquoi on est trois aujourd'hui autour de la table, parce que la ville elle-même n'aurait pas pu rendre compte de tout les expertises et l'énergie que ça a pris, en fait, pour venir répondre à ces besoins-là qui étaient criants, urgents et nombreux là, au mois d'avril dernier.
Et pouvez-vous me parler des effets que la station a eus sur la clientèle?
Il y a eu des effets bénéfiques. Quantitativement, là, le nombre de personnes qu'on a reçues, réchauffées, à qui on a donné vêtements, on a donné sur un espace de quelques semaines au-delà de 3000 dépannages alimentaires. Il y avait des gens qui revenaient à tous les jours, on donnait de l'information, il y avait de l'outreach qui était fait là. Il y avait une possibilité aussi de garder un contact avec des gens parce qu'on l'a nommé, on confinait les gens dans nos refuges d'urgence. Donc, il n'y avait pas d'interface avec l'extérieur parce qu'on nous obligeait à cesser les contacts puis d'arrêter les périodes de carence qui, normalement, permettent aux gens d'aller retourner dans le milieu et revenir. Donc, il n'y avait plus d'interface entre ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans les services à l'interne. Donc, ce chapiteau-là a eu des effets ultra bénéfiques à ce niveau-là. On était capable de mieux monitorer l'état de la situation à l'extérieur. On était capable de créer des passerelles pour permettre à des gens de rentrer dans les services et d'autres personnes de quitter les services. Parce qu'on va se le dire, quelqu'un qui n'est pas habitué d'être confiné, quelqu'un qui est habitué d'avoir une consommation de psychotropes élevée à tous les jours, qui n'est pas nécessairement stable au niveau de la santé psychologique, de la santé mentale, être confiné dans un refuge, là, c'est quelque chose qui s'apparente à être en prison sans la structure de contention possible ou de répression possible qu'il y a dans une prison, parce qu'on reste des milieux volontaires. Donc, il fallait gérer un flot d'entrée et de sortie en respectant les normes de santé publique. Donc, techniquement, le chapiteau a eu un effet positif parce qu'il a permis de réaliser ça.
C'était une des préoccupations, d'ailleurs, Sébastien, au départ, quand on analysait le bien fondé de cette mesure-là, là, très rapidement, dans les interactions avec la santé publique, c'est est-ce que la station extérieure ne va pas générer un rassemblement? Puis, c'était le défi de gérer ça. En même temps, il faut mettre en place des services. Donc, oui, peut-être que ça va générer un mouvement vers la station, mais on met en place des moyens pour gérer ça le plus possible.
Est-ce que la station a réussi à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés au départ?
Le service, en réalité, était incomplet. Dans le sens où, je l'ai nommé plus tôt, précédemment, il y avait une absence de toute autre forme de service de ce qui était donné à ces personnes-là. Puis ce qu'on donnait au niveau du chapiteau était quand même limité. C'était pas des chambres. Il y avait des chaises longues sur lesquelles les gens pouvaient aller s'installer. C'était des dépannages alimentaires, c'était des sacs à lunch. C'était pas un espace où quelqu'un peut s'installer, manger. C'était pas un endroit où on pouvait s'installer et discuter puis avoir une réelle interaction sociale parce qu'il y avait la distanciation de 2 mètres. Comme on n'était pas dans une bulle fermée, les gens devaient porter des masques, être distancés. On ne pouvait pas laisser les gens s'accumuler là. Donc, il y a un paquet de problématiques auxquelles on n'était pas capable de répondre. Puis les gens qui venaient à la station étaient dans une situation d'urgence.
Vous l'avez nommé un peu plus tôt, le CIUSSS avait vraiment beaucoup d'enjeux en même temps pendant cette période-là. Puis je me demande comment ça s'est passé pour que le hockey se donne, pour que le projet puisse aller de l'avant.
À un moment donné, moi, on m'a dit, tu sais, il y avait ça sur papier, on en discutait, puis on m'a dit, Charles, c'est quoi la meilleure solution du point de vue du milieu, là, avec les partenaires de la TIS, là, c'est quoi la meilleure solution qu'on peut mettre en place maintenant? Reviens-nous avec ça. Puis on va aller de l'avant avec ça. Tu sais, on fait confiance à ça.
Mm-hmm.
Fait que, même si je disais tantôt, on n'est pas dans un projet de développement, dans un processus de développement des communautés pur, mais il y a des principes du développement des communautés. Le principe du pouvoir, de l'approche bottom-up, là, on va le dire comme ça, de dire quel est le besoin du milieu, puis quelle est l'expertise, puis la vision du milieu sur le meilleur moyen. Bien, quand on a dit, regarde, nous autres, on pense que dans les circonstances actuelles, c'est la station extérieure, puis plus vite c'est mis en place, mieux que c'est. Bien, let's go, on y va. Puis après ça, la santé publique dit, bien, voici quels sont les paramètres qu'on pense qui devraient être mis en place. Puis là, Sébastien s'est mis à coller du tape un petit peu partout dans la station extérieure, à mettre des flèches. Puis,
Mais aussi, ce qui nous a aidé, là, Charles, je vais juste faire du pouce sur ça, c'est qu'il y a une structure qui a été mise en place, à laquelle tu as contribué, à laquelle aussi à la Ville on a contribué, qui était le comité entraide, Action entraide.
Ouais.
Donc, ce comité-là, dans le fond, était formé de dirigeants d'institutions, mais aussi de la CDC. Hein, au niveau communautaire. Et il y avait quand même, nous, on travaillait fort là, concrètement sur le terrain, mais il y avait aussi des discussions qui se faisaient à un autre niveau et qui nous suivaient. Donc, nos dirigeants suivaient l'information pour dire, bien, on va être rendu là, puis effectivement, on va investir parce qu'à un certain moment donné, il y a eu des dépenses. Hein, on a dû investir dans ce projet-là. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la communication, de la ligne de communication et de ce projet-là, mais aussi de plein d'autres. Ça nous a aidé, ce comité-là, concerté.
Et comment on fait pour la communication quand plusieurs organismes sont impliqués comme ça, avec plusieurs intervenants par organisme?
Il faut être bienveillant les uns envers les autres, être tolérant, puis on se dit, le chemin le plus rapide, il est justifié. Tu sais, si Sébastien m'appelle un matin, je me rappelle, un matin, je pense qu'il était 6 heures, tu sais, en venant ici, tu m'appelles, « Hey, j'ai pensé à telle affaire, tant. » Là, j'ai dit, là, je sais même pas s'il sait qu'il est 6 heures ou 10 heures, je sais pas trop quoi. On est dans cette réalité-là.
C'était je t'avoue que je le savais pas. J'avais perdu.
Ouais, ben, je fais une blague, moi aussi, j'étais là, j'étais disponible, là, mais dans le fond... Lui, il me nomme ça. Moi, je peux lui dire, OK, je parle aujourd'hui à telle personne à l'interne, puis tout ça, puis je te reviens avec ça. Mais si 2 heures plus tard, il y a l'occasion de parler à quelqu'un au CIUSSS, puis de nommer la même affaire, puis d'avoir un résultat plus vite que par moi, bien, bravo, c'est ça qu'il faut. Là. Mm-hmm. Donc, il faut ménager nos susceptibilités.
Comment se positionne cette initiative-là sur le plan du développement des communautés?
Le développement des communautés, c'est un processus de coopération volontaire qui amène non seulement les institutions, les organismes communautaires, mais aussi les gens qui vivent la situation à créer un projet ou une démarche, quelle qu'elle soit, pour agir sur leur milieu de vie, pour agir sur leurs propres conditions d'existence.
Pour moi, le développement des communautés, c'est, oui, c'est de la concertation, c'est de l'influence, puis c'est des compromis. C'est vraiment, là, il faut travailler avec ça. On se concerte, on travaille ensemble. Forcément, on est un groupe, on n'a pas toutes les mêmes idées, tu sais. Fait que vraiment, l'influence mutuelle dans les choix qu'on veut faire, mais les compromis. Compromis, c'est, tu l'as abordé tantôt, Patricia, c'est vraiment comprendre l'autre. C'est quoi ses préoccupations? C'est quoi ses possibilités? Mais quelles sont ses limites aussi? Puis d'apprendre à respecter ça, puis de reconnaître ça. Puis ça nous amène, ça, quand on réussit à faire ça, puis que tous les partenaires se sentent reconnus, dans leurs possibilités puis dans les limites qu'ils ont, mais ça nous amène à être capable à prendre un engagement qui est l'engagement de réussir quelque chose. On ne sait pas encore ce que c'est, mais si on est capable de prendre l'engagement de réussir quelque chose, bien, on est sûr d'atteindre un succès, là, un certain succès.
Et avec, disons, un tout petit peu de recul, là, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là que vous avez vécue?
Je pense que dans ce cas-ci, on a fait tentativement plein de choses qui étaient imparfaites, mais à travers ça, on a agi avec les gens, pour les gens, puis par les gens. Fait que je pense qu'on a aussi fait vivre le principe de développement des communautés du par et pour. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on a fait? Quel sera l'impact? T'sais, si on se projette, ben ça peut être que du bon, parce que dans le fond, on a prouvé qu'on était capable de le faire, de faire vivre concrètement le développement des communautés.
Au final, qu'est-ce qu'il y a de positif qui ressort de manière simple? C'est qu'il y avait un problème. On a travaillé ensemble, il y a eu, bien qu'imparfaite, il y a eu un résultat. il y a eu une démarche qui a été jusqu'à sa conclusion, puis même jusqu'à une rétroaction après, on a pris le temps d'en parler, on a suivi toutes les étapes, et il y a eu, de manière qualitative et quantitative, des résultats positifs.
Puis tu sais, dans le processus, là, c'est intéressant parce que, tu sais, quand tu dis « on a tout fait le processus », c'est qu'à un moment donné, de décider de mettre en place le chapiteau, c'est une chose, mais de décider quand est-ce qu'on y met un terme, c'est une autre chose, puis c'est aussi complexe. Mais ça, c'est intéressant parce que autant on est parti sur les chapeaux de roue au début, autant là, on a pu bien faire les choses, tu sais, en visioconférence avec les partenaires de la table itinérance, on fait une analyse, on fait le point. Puis on a convenu, tu sais, que c'était le bon moment de l'arrêter. Puis je trouve que rendu à ce moment-là, l'interlocuteur clé, c'était vraiment vous autres, le Partage Saint-François. Tu sais, pour le vivre avec l'analyse que vous faisiez, il fallait qu'on parte de ça. Puis là, il y avait une force de constat de dire « OK, on arrête le chapiteau ». Fait que ça pouvait pas être une directive du CIUS. Voilà, nous autres, on décrète qu'à partir de tel moment, ça pouvait pas être ça. Fallait que ça soit une analyse des partenaires en fonction des enjeux de la conjoncture actuelle, on l'arrête, tu sais. Fait que ça, c'était quand même un beau moment aussi de dire… c'est pas simple, parce que là, tu gères un arrêt de service. Tu sais pas trop comment ça va se passer aussi. Moi, si je reviens dans, tu sais, je ramène ça un peu dans une perspective DC, tu sais, développement des communautés, on a une responsabilité. Moi, je pense qu'il faut toujours être en mode développement. Un piège qui nous guette quand on est une communauté de partenaires d'intervention, c'est qu'à un moment donné, on se dise, OK, on fait ce qu'on fait là, on essaie de consolider. Oui, c'est vrai qu'il faut faire ça, mais on a une responsabilité, il y a une forme d'engagement envers la population auprès de qui on intervient, c'est de toujours imaginer différentes possibilités, être à l'affût des besoins. Il faut faire preuve de créativité. On a toujours besoin d'inventer puis de s'imaginer. Puis ça, là, il faut nourrir ça. Il ne faut pas mettre un frein à ça. Il faut toujours être prêt. On ne sait pas quand les opportunités vont arriver. Puis des fois, les opportunités, à un moment donné, se présentent. On ne l'avait pas prévu. Puis là, on est prêt. Fait qu'il faut être en mode développement. Je trouve qu'on a ce devoir-là. Puis c'est un piège. Souvent, on va se dire, bien là, on n'a pas les moyens de faire ça. On n'a pas d'argent. Fait qu'on va arrêter. Non, on ne va pas arrêter de créer, d'imaginer, puis de se préparer.
Ouais. Et en terminant, avez-vous une citation ou un modus operandi qui vous soutient dans votre travail en développement des communautés?
À l'impossible, nul n'est tenu, mais il faut tenter de l'obtenir. C'est aussi simple que ça.
On évolue dans l'action. Alors, oui, tu sais, il y a les théories, puis oui, il y a tout ça dans les livres, puis oui, il y a toute cette planification-là, puis oui, ça peut être super sérieux, là. Mais des fois, il faut juste comme le faire sérieusement, tu sais.
Vraiment, ce que je demande le plus souvent, c'est à quel besoin tu réponds. C'est vraiment comme ça que j'analyse les situations tout le temps. Autant quand je suis dans l'intervention individuelle, l'intervention de groupe, quand on est dans le travail collectif, à quel besoin tu réponds?
Patricia Sévigny, Charles Coulombe et Sébastien Laberge, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter cette initiative-là. C'était très inspirant.
Merci.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.